Bonsoir à tous. Françoise Tressard et la belle équipe des Papous en piste jusqu'à 21h. Au menu, pour accompagner votre dîner, l'apéro entre amis ou la séance d'abdos, et pour muscler votre esprit avec plaisir et sourire, une histoire de samedi soir. Et parlons-nous de la même œuvre. Oui, peut-être bien, mais à mots couverts. Eva Almassi.
La neige, la boue, bien vu, il y en a. Mais on n'est ni dans Blanche-Neige, ni dans la chanson La Gadou, La Gadou. Les chaussettes noires, alors, si vous voulez, mais celles de l'amoureux transi sont manifestement trouées.
Et puis, aphorismes et périls, nous surferons ensuite sur la vague avec Odile Conseil, avant de faire la connaissance de Cain, Ricardo Mosner, et d'Abel Jacques Vallée, toujours en grande détestation, ces deux-là. Et nous visiterons le parc de l'adolescence, imaginé par Sophie Divry, en compagnie du visiteur Lucas Fournier.
Je suis avec mes enfants.
Ah, on a le droit.
J'ai deux ados à la maison.
Oui.
Je les ai emmenés dimanche dernier. C'est Thomas qui a 15 ans et Juliette 13 ans.
D'accord.
Leur mère a dit, tu les emmènes, moi j'ai pas le courage, ça me fera des vacances.
Vous l'avez compris, le samedi soir, c'est Papou sur France Culture. Et si vous sortez, eh bien, le podcast est fait pour vous. Alors, je sais, certains ne s'y habituent pas au podcast, mais je vous assure que c'est le bonheur de pouvoir écouter vos émissions préférées quand ça vous chante. Et c'est sur franceculture.fr que vous pouvez télécharger. Merci de votre amitié fidèle à nos papous dans la tête. Bienvenue aux nouveaux auditeurs. Et que la fête du samedi 20h commence avec une histoire de samedi soir, des histoires dont nous régale Lucas Fournier depuis la rentrée. Alors, Lucas, après Feydeau, Jules Verne, Audiard, à qui le tour d'être pastiché ?
Molière.
Chic, chic, chic.
Une comédie en trois actes.
Ouais.
La fièvre du samedi soir.
Ouais. Vous avez des rôles à distribuer.
Alors, j'incarnerai Oronte, qui est un bourgeois parisien.
Oui.
Ma fille s'appelle Agnès.
Oui.
C'est Eva.
Oui.
Et ma servante, c'est Rosine, sera incarnée par Violaine Schwartz. Et la scène est à Paris.
D'accord.
Acte 1. La peste soit du samedi. La semaine, je suis à mes affaires. Le dimanche, je vais à la messe. Mais le samedi, où aller ? Dehors, on s'agite. Recevoir, je n'ai pas d'amis et n'en veux point avoir. Lire, les livres le samedi sont encore plus ennuyeux qu'en semaine. Heureusement, j'ai ma fille, ma consolation. Ah, ma fille, tu es bien là.
Oui, mon père.
Ah, c'est une enfant que j'eus avec une femme de Pologne. Elle en a l'accent. Ce soir, nous resterons là tous deux. Nous jouerons à l'écarté. Nous boirons des tisanes. Et ce samedi deviendra doux à ma fille. La bonne soirée que nous allons passer ensemble.
Justement, mon père, ce soir.
Justement, ce soir, ne me le dis pas. Tu veux une tisane au miel? Tu l'auras.
Non. Mais oui, mais justement ce soir...
Ah, je devine. Tu voudras t'aller coucher tôt, c'est promis. Tu seras au lit à 8h.
Ah ça, monsieur. Il y a justement que votre fille voudrait aller danser avec les amis de son âge plutôt que de cajoler un vieillard et qu'elle n'ose pas vous le dire.
Que dis-tu la vilaine ? Ah, mon cœur. Ah, je le sens qui palpite, qui défaille. Ah, mettez là votre main. Non, pas toi, Rosine. Toi, ma fille. Ah, tu sens comme il bat, mon cœur.
Mon père, je ne vous quitterai pas.
Acte 2.
Ce vieillard, je m'en vais vous le retourner. Monsieur, je ne veux pas vous fâcher, mais il me semble ce soir que vous avez le teint bien gris.
Tu veux me faire du mal ? Fais voir. Ce teint n'est pas très frais, hein ?
On dirait un hareng. Et vos yeux sont brillants, et votre front, il brûle. Il ne faudrait pas que vous l'ayez attrapé, car elle est terrible.
Mais de qui parles-tu, coquine ?
Mais de cette fièvre, monsieur. Non pas jaune, afteuse ou bubonique, non. La pire, qui donne des suées, des trépidations, des tremblements.
Mais quelle est donc cette fièvre ?
Mais la fièvre du samedi soir.
C'est que nous sommes samedi. Va me guérir un docteur.
Pour sûr. Et un fameux de docteur.
Acte 3, entre Rosine, habillée en médecin.
Toctissimo, toctoribus. Où est donc le grand malade ?
C'est moi ! Monsieur le docteur.
Ah. Yo, vous semblez bien touché, hein? Je vais vous poser des questions délicates, et selon la réponse, nous saurons votre état.
Voyons, avez-vous moins de 20 ans ?
Est-il bête ? J'en ai 3 fois 20 ans.
Ah, alors je suis content. La fièvre attaque en premier les plus jeunes. Mais attendez encore pour être exonéré. Vos cheveux sont-ils longs ?
Bah, quel docteur est-ce là ? Je n'en ai plus un seul.
Ah, je l'espérais. C'est que le mâle qu'on cherche aime les chevelus. Mon ultime question donnera le verdict. Avez-vous l'envie de vous trémousser ou de lever la jambe, hop là, comme ça ?
Bah, pourquoi diable l'aurais-je ? J'ai de la goutte aux pieds.
Ah, que ne le disiez-vous ? Vous n'avez pas la fièvre. Quoique...
Quoique... Quoique...
Qu'il vous faut éviter la contagion. N'y a-t-il pas chez vous des jeunes filles aux longs cheveux, à la jambe bien faite ?
Aucunement.
Vous n'avez pas de bonne ? Celle qui me vint chercher me semble gracieuse.
On s'y fait, mais elle n'est guère à corte.
Le gredin. Écartez-la ce soir, car on ne sait jamais. Est-ce tout ? Point d'autres femmes au logis ?
Aucune. Je suis veuf.
Oh, pas de nièce ?
Non.
Pas de fille ?
Non.
Mais qui est cet enfant ?
Bah, c'est ta nièce, ma fille.
J'en suis fort aise. Ah. Elle a plus de 20 ans, j'espère.
Je crois qu'elle en a 15 ou peut-être 18.
Ah, cela me contrarie, car ses cheveux sont longs. Monsieur, votre vie se peut trouver en danger si vous gardez ce soir votre fille avec vous.
Mon père, je sens la fièvre qui me gagne.
Ma fille, je te chasse. Surtout ne reviens pas avant minuit. Oh, oh. Ah, oh, c'est une grande chose que la médecine. Rosine ! Rosine ! Ah ouais, cette bougresse. Rosine, apporte ma tisane et mon jeu de cartes. Nous jouons à l'écarté. Rosine ! Je suis tout seul. Alors c'est moi l'écarté. Je hais les samedis. Rideau.
En jeu maintenant une certaine œuvre. Alors, film, roman, théâtre, on ne vous le dira pas, puisqu'il en sera question à mots couverts. Comment garder l'ambiguïté tout en pouvant justifier chaque mot dit pour en parler ? Voilà, c'est pas facile et c'est le jeu, c'est la tâche accomplie par Eva Almassy qui a écrit sur une certaine œuvre et a offert son texte pour lecture à Odile Conseil, laquelle s'est fait une idée de l'œuvre, a écrit à son tour et transmis pour le décodage à Patrice Delbourg. Parlons-nous de la même œuvre ou culture du malentendu ? Tout part de vous, Eva. Vous avez choisi une œuvre que vous aimez, je suppose.
Ah, une œuvre que j'aime beaucoup.
Oui.
Et j'ai choisi une forme qui est souvent la forme des conversations et qui est la forme de « oui, mais ».
Ah
donc
oui.
À chaque fois, il y a une assertion et puis son contraire.
C'est pas en même temps, mais c'est oui, mais.
D'accord. Et c'est pas le 8 mai, non. Freud n'est pas loin, mais nous ne sommes pas à Vienne. Le marquis de Sade non plus. Pourtant, l'héroïne ne s'appelle pas Justine. Il y a donc une héroïne, oui, mais par moments, elle fera la morte. Certains l'aiment chaud, oui, mais elle, est-elle frigide ou quoi? Les hommes préfèrent les blondes sans doute, mais celle-là n'est pas Marilyn Monroe. Blonde, brune, serait-ce une œuvre dualiste, pour sûr, mais au sens de deux mondes opposés. La neige, la boue, bien vu, il y en a, mais on n'est ni dans Blanche-Neige, ni dans la chanson « La gadou, la gadou ». Les chaussettes noires alors, si vous voulez, mais celles de l'amoureux transi sont manifestement trouées. Qu'on lui troue aussi la peau. D'accord, d'accord, mais pas avant la fin. Alors, est-ce d'un Pierre, deux coups ? Mais non, même pas. Donc Pierre avec un majuscule, bien sûr, un Pierre. C'est dans la boîte. Seulement, qui sait ce qu'il y a dans la boîte ? Et dans le carrosse, il n'y a personne. L'héroïne répond, qu'est-ce que t'en sais ?
Ah, c'est formidable parce que c'est très joli. On se dit, oh, je l'ai sur le bout de la langue et puis, rien. Et puis on ne sait pas, on est perdu.
Mais c'est une œuvre normande parce que ce côté, oui c'est ça, mais peut-être que c'est
peut-être
ça.
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Patrice Delbo, vous êtes en bout de chaîne, donc c'est une chaîne très courte, hein, composée d'Eva Dodi.
Oui, enfin, yeah.
Mais bon, vous n'avez eu en main que le texte de Dil Conseil.
Oui.
Mais est-ce que la lecture d'Eva vous rapproche de ce que vous avez pensé du texte de Dil ou pas?
C'est très difficile. C'est très difficile. C'est vrai qu'il y a des noms qui arrivent au bord des lèvres et puis s'évanouissent. Enfin, j'avais deux propositions.
Oui, non, pas tout de suite.
Hein. J'avais deux propositions, deux romans un petit peu comme ça, Chaussettes trouées, Neige et Opposition de classe.
D'accord.
Bon, qui tiennent avec les deux. Plus avec l'écoute du texte d'Eva, peut-être, que celui de Dil. Oui.
Et pour Sophie et Lucas, premier spectateur, auditeur, comme ça, sans rien dévoiler hein, de ce que vous pensez, elle était jolie, cette musique d'Eva.
Ah oui, on oscille entre la taïga avec la neige et un traîneau et un dessin animé de Walt Disney. Donc, c'est très ouvert.
Le champ des possibles est immense. Et c'est vous, Odile Conseil, qui avez eu le bonheur de recueillir ce texte d'Eva que vous n'avez pas eu avec sa voix mélodieuse, mais que vous avez eu à la lecture. Alors, est-ce qu'il a été douloureux de se faire une idée de l'œuvre?
Ah mais non, pas du tout. C'est effectivement un bonheur parce que Eva a semé dans son texte mais plein d'indices qui ne pouvaient me mener qu'à une seule et unique piste.
Bravo.
Alors du coup, vous êtes dit, je vais écrire dessus.
Je vais écrire et c'est un extrait de mémoire.
Les vôtres?
Non, pas les miennes. À cette époque de ma vie, je travaillais dans une entreprise familiale prospère. Et je peux affirmer, sans me vanter, que j'y étais fort appréciée. Non sans raison, mon travail quotidien contribuait largement à la richesse de l'endroit. On me respectait donc, on me saluait chaleureusement. Je menais la belle vie. Et cela aurait pu continuer longtemps sans la fille du patron. Une capricieuse, une jamais contente qui trouvait que les cadeaux que lui offrait son père étaient toujours trop comme ci ou pas assez comme ça. Celui-ci souhaitait associer sa fille à ses affaires, mais elle ne voulait pas la bougresse. Pour vous dire jusqu'où alla sa perfidie, sachant combien son père m'estimait, elle lui mit un marché en main, c'était elle ou moi. Son père l'aimait, il me sacrifia. Mon histoire avec eux se termina donc là. J'ai ouï dire que la donzelle n'a même pas tenu parole, elle a quitté le domicile familial et aurait fait un riche mariage.
C'est un joli texte. Est-ce que Eva, vous avez l'impression que Odile Conseil parle de la même œuvre?
Au début, elle parlait de la même chose, entreprise familiale, oui, et que l'arrivée de la nouvelle recrue enrichit, c'était exactement ce à quoi j'avais pensé. Puis elle a pris un virage et elle a visité des contrées inconnues pour moi, donc je ne sais pas où elle est arrivée.
Bifurcation, ouais. On va voir après où elle est arrivée. Toujours est-il que Patrice Delbourg s'est retrouvée avec le joli texte de mémoire d'Odile Conseil. Et alors, il ne s'agissait plus pour vous d'écrire, mais de dire de quelle œuvre il était question.
Oui, de quel personnage, de quel jeune garçon il s'agissait, puisque je pense que c'est un saute-ruisseau qui vit dans la pauvreté, qui aide un boutiquier comme ça à faire son commerce et qui tombe amoureux d'une jeune fille qui ensuite les conduit. En plus. Alors, j'avais le choix entre un saute-ruisseau américain, anglais ou français.
Oui, il aurait pu y avoir un russe aussi.
Non, français. Non, russe, c'est pas trop.
Et il y en a des russes qui
français, bon, c'est genre poil de carotte, mais non, je ne sens pas trop. Après, j'ai su, mais bon, il y a la neige, mais ça, je ne l'avais pas là.
Vous ne l'aviez pas,
je l'avais pas. Donc, je dirais David Copperfield.
Oh, alors là.
David Copperfield, on est très loin.
Donc là,
alors, on ne peut absolument pas être plus loin que David Copperfield.
Ça, c'est agréable.
C'est aux antipodes de David.
Aux antipodes. Moi qui aime le rugby, ça fait du bien.
Mais l'important, c'est que le courant soit peut-être passé entre Dil Conseil et Patrice Delbourg. Est-ce que Dil Conseil a voulu parler de David Copperfield?
Non, pas du tout.
Alors.
Alors, parmi les indices donc, que Eva a cités, a semés dans son texte, il y avait Blanche-Neige et il y avait dans le carrosse personne. Donc, Blanche-Neige, le carrosse, ça nous amène à un univers de contes de fées. Donc, c'est un conte de fées, donc ce n'est ni l'un ni l'autre. Il est question de Freud. Freud, inceste, peau d'âne. Il y a Freud, il y a le marquis de Sade, c'est quand même très très sadique. Elle ne ressemble pas à Marilyn, non, parce que c'est Catherine Deneuve.
Ça chauffe.
Marilyn qui chantait Yes, my heart belongs to daddy. Oh, c'est le contraire pour Catherine Deneuve, son heart n'appartient pas à son père.
Qu'est-ce qu'elle fait,
Et après, qui sait ce qu'il y a dans la boîte? Ben, dans la boîte, moi je sais, parce que la boîte, c'est la boîte à gâteaux. Et dans la boîte à gâteaux, il y a le fameux gâteau que Podane fait, dans lequel elle met sa bague, que trouve le prince. Le prince qui, à force de la chercher un peu partout, a des chaussures, donc des chaussettes trouées. Voilà.
Elle est trop forte. Je ne sais pas si c'est ça, mais elle est très très forte.
C'est brillant, hein.
C'est une décodeuse formidable. Une décodeuse.
Bon, mais je crois que ce n'est pas du tout ce qu'Eva a voulu
alors
raconter.
Je ne sais pas. De quoi était-il question, Eva?
Il est à question d'un autre film de Catherine Deneuve.
Ah, quand même.
De Belle de jour. Mais alors, mais Podane, c'est extrêmement proche. Parce qu'avec la bicouleur de temps, et puis là, ben, elle est belle de jour parce qu'elle est là, de la sieste pour travailler et pour fructifier l'entreprise familiale, donc le bordel privé. Et eh bien, je suis totalement éblouie parce qu'en effet, c'est Catherine Deneuve et tout le reste collait bien, sauf que la boîte, c'est la fameuse boîte de l'Asiatique où toutes les prostituées ont peur de cette. On ne sait pas s'il y a des bêtes dedans ou qu'est-ce qu'il y a qui révulse tous les autres. Le carrosse vide, c'est à la fin. Parce qu'au début, elle est dans ce carrosse où on la fait descendre et on lui jette de la boue et on la fouette. Donc ça n'est pas loin. Et puis à la fin, ce carrosse de Buñuel donc, est vide. Puisque tout a été résolu en tuant l'amant avec ses chaussettes, fameuses chaussettes trouées. Et donc, je crois que c'est la gardienne de l'immeuble où il y a cette maison close privée qui lui demande, mais est-ce que c'est pas trop dur? C'est-à-dire se soumettre à tout, se prostituer avec des clients dont les autres ne veulent pas. Et donc, c'est là qu'elle répond, mais qu'est-ce que t'en sais? Avec un sourire aussi énigmatique que celui de la Joconde.
Mais à un moment donné, vous parlez de Pierre de Coubertin. Qu'est-ce que c'est, Pierre de Coux?
C'est son mari qui s'appelle Pierre et qui est un chirurgien. Et alors je demande, est-ce que d'un Pierre de Coux, mais non, puisqu'elle est frigide et parce qu'ils font pas l'amour, donc pas un coup, pas de coup, aucun. Ah,
quand même, moi je trouve que c'est très joli parce que il y avait Catherine Deneuve, bon, dans Belle de Jour, avec Eva Almassi, il y a Catherine Deneuve dans Podane. Oui. Chez Odile Conseil. Ah, évidemment, chez vous, on change de sexe.
Elle aurait pu jouer dans David Copperfield.
David Copperfield, qu'est-ce qu'elle aurait fait comme personnage?
Elle aurait disparu avec le magicien qui s'appelle aussi David Copperfield.
Le magicien avec sa blonde de femme.
Elle aurait pris la place de la blonde allemande, là, dont le nom m'échappe.
Claudia Schiffer.
Claudia Schiffer.
Bon, il y a une petite déperdition, mais.
L'important, c'est de participer.
Voilà.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures. Toi jamais mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent, ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
Catherine Deneuve, toi jamais.
Vous avez la fièvre, c'est donc samedi soir, des papous dans la tête, mieux que du Travolta.
Et c'est l'heure, Eva, d'aphorismes et périls. Gérard Mordillat, oui, a inventé un aphorisme très proche du proverbe et il joue à nous raconter son origine. C'est un imaginatif, Gérard, toute son œuvre en témoigne. Alors, laissons-nous porter par son doux délire et naturellement, comme toujours au Papou et comme le font les enfants, on dirait que tout serait vrai. Racontez-nous, Gérard Mordillat.
C'est une histoire qui se passe en Grèce et il y a fort longtemps. Parce que ça commence vers 560 avant notre ère. C'est Héraclite qui raconte qu'à Samos, dans la mer Égée, Pythagore se hâtait sur un petit chemin qui sentait la noisette. Mmh. Un petit chemin qui n'avait ni queue ni tête, mais qui avait pour particularité d'être parfaitement rectiligne et de conduire tout droit jusqu'à la mer infinie. Pythagore n'était pas seul. Il cheminait en compagnie de la charmante Mireille, la femme de Carolus Bellovary, médecin établi dans l'île depuis peu. Depuis trop longtemps, d'après sa femme, qui dépérissait d'ennui à compter les moutons qui, dans l'île, étaient plus nombreux que les habitants. La rencontre avec le fringant Pythagore avait rallumé en elle un volcan qu'elle croyait éteint. Il lui avait parlé du carré de l'hypoténuse, du triangle rectangle, de la somme des carrés et de tas d'autres choses excitantes pour une femme en mal d'amour. Mireille était prête à tout, à s'abandonner dans le carré de Pythagore, à accueillir son hypoténuse dans son triangle rectangle et plus si affinité. Mmh. C'était ésotérique et charmant, surtout que Pythagore lui assurait que deux parallèles ne se rejoignent qu'à l'infini, et que Mireille voyait l'infini au bout de la route dans une petite crique où il pourrait enfin faire de la géométrie dans l'espace et mettre la théorie en pratique.
Dans l'espasme.
Dans l'espasme, oui. Ce qu'ignorait Mireille, c'est qu'à côté du petit chemin qui la conduisait aux délices de Capoue, il y en avait un autre, parfaitement parallèle, qui menait au même endroit. Quand les deux chemins se rejoignirent, il arriva ce qui devait arriver. Patatras, comme on dit en grec, Mireille et son Pythagore tombèrent sur Carolus Bellovary en route pour secourir un berger mordu par un mouton. Ce fut fini des promesses d'infini. Entre deux sanglots, Mireille gémit. Quand deux parallèles se rejoignent à l'infini, on peut dire que c'en est fini de l'infini.
Ah, oh, mais c'est triste.
Ah, c'est une histoire d'amour
ah,
dramatique.
Oui, oui, oui. Ah, oui. Ah oui, oui.
Mais c'est beau aussi dans cette tristesse.
C'est vrai. Vous aviez envisagé la fin comme ça, Hervé ?
Non, moi, l'infini, pour moi, c'est quelque chose qui est inconcevable.
Donc, effectivement.
Je suis un homme concret, plein de finitude.
Ben oui. Bien cartésien.
Bien cartésien. Et oui.
Tu n'es pas un homme fini, quand même.
Borné. En mathématiques, est très différent.
Et Gérard Mordillat cède sa place à Odile Conseil. Et Odile Conseil, elle aime tout ce qui est marin. En témoigne son fameux festival Ciné Salé, où vous étiez peut-être le week-end du 18 octobre au Havre. Elle en est revenue avec l'envie de surfer sur la vague. Enfin, c'est plus vraiment de saison en France, mais de surfer sur le mot vague, à sa façon et en vers. Quant à Patrick Beignet, il sera en charge du rôle de contrôleur de ses dires dans un dictionnaire classique. Odile Conseil sur la vague. Toute seule ou vous êtes accompagnée ?
J'ai confié un petit rôle à Lucas Fournier.
Pourquoi petit ?
Parce qu'il n'y a que deux lignes.
Deux vers.
Est-ce qu'il ne méritait pas mieux ?
Il eût pu mériter mieux.
Est-ce que Patrick Beignet est à la vague ?
Non, je suis à véhémentement.
On approche, assurément.
On approche. Vague.
Est-ce que c'est un article un peu copieux ou pas ?
Il y a trois articles.
Et elle a tout traité ? Les trois ou deux seulement ?
Rien du tout, à mon avis.
Patrick nous le dira.
Bon, ça se présente comment ?
Ça ressemble à des alexandrins.
Oui.
Pour l'essentiel.
D'accord.
Surfeur, toujours tu chériras la vague. À Biarritz, à Hawaï et aussi à La Hague, roulant ses eaux d'émeraude et frisant son écume, se laissant chevaucher par toi qui, telle la plume, écrit sur ses rouleaux des poèmes éphémères. Chantées par les plus grands, Valéry, Baudelaire, les vagues nous effraient quand elles deviennent l'âme, frappant sur les navires, engloutissant les âmes. Et quand surgit au loin la vague scélérate, tout un chacun à bord fait ses prières en hâte.
Bah, intérêt, hein.
Car ainsi va la vague, existe en plusieurs tailles. Ainsi pour vous, madame, et vos cheveux de paille, je suggère la petite, dite aussi mini-vague. Elle vous mettra bien vite les mèches en zigzag. À vous, les vacanciers qui aimez barboter, une gentille houle pourra vous amuser. Quant aux navigateurs sur leur catamaran, ils affrontent sans répit les 50e hurlants et leurs fiefés cousins 40e rugissants, où des vents violents sculptent les océans jusqu'à y faire des creux qui font claquer les dents. La vague est assassine aussi dans nos contrées. Victor Hugo le sait, à qui le mascaret vola sa fille chérie. Du moins, c'est ce qu'on dit. La vague est meurtrière quand elle est tsunami, déferlant sur la côte comme les Huns d'Attila, noyant les poissons rouges et semant le trépas. Car rien n'arrête les vagues, sauf les vagues de brume, mais seulement en Belgique, où s'alignent les dunes. Craignez aussi, vieillard, la vague de chaleur qui conduit au cimetière en avance sur l'heure, tout comme les vagues de froid qui mordent jusqu'au cœur les faibles et les pauvres dormant à l'extérieur.
Bah dis donc, c'est pas gay, hein. ton petit rimailleur, ça colle du vague à l'âme. Oh, bah, tiens, voilà que je pleure.
Ah, tu trouves ? Bon, d'accord, je change de registre. Je ne veux pas ici paraître trop sinistre. Je t'emmène par exemple au ciné, où Truffaut et Godard et Chabrol et d'autres rigolos lancèrent la nouvelle vague où périrent leurs pères, Duvivier, Jean Renoir, René Clair, Jacques Becker. Tu veux de la peinture ? Allons-y, pourquoi pas. Admire la grande vague de Kanagawa, du célèbre Okusai, personne ne s'y noie. Pas plus que dans le stade, quand de grands cris de joie soulèvent la foule en vague, tous faisant la hola. Une autre chose encore. Prenons ce roman rose, dont l'héroïne, hier pauvre petite chose, a enfin surmonté les épreuves de la vie. Elle est étendue, nue, lascive, dans la soie. Au-dessus d'elle, un homme lui fait... devinez quoi. La voilà parcourue de vagues de plaisir, dont l'auteur nous dit tout, du premier frémissement, quand la houle se forme, à l'intense mouvement qui fait tanguer, rouler, et soudain la submerge, la laissant pantelante, inondée sur la berge. Après ça, l'homme s'endort, lançant un vague bonsoir. L'héroïne en conçoit un grand, grand désespoir. Et voilà, c'est dommage qu'elle se met à boire, matin, midi et soir, à en devenir noire. Alors tout devient flou, voilà qu'elle divague. Femme ivre, toujours errera dans le vague.
C'est joli, hein. C'est très, très joli. Alors, je vous voyais extrêmement concentré, Patrick Beignet, le nez collé au dictionnaire.
Dès que Dil ouvre la bouche, je suis concentré.
Oui, c'est bien.
Toujours.
Elle le mérite, elle le mérite. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou elle a tout traité?
Écoutez, j'ai pas entendu passer le nerf vague.
Non, c'est comme un peu pour les impôts, il faut toujours laisser un os à ronger. Et voilà, c'était le nerf.
Comparer un nerf et un os, c'est quand même...
du malaise vagal.
Voilà.
Oui.
Le manteau vague.
C'est quoi le manteau vague?
Ah, c'est une coupe vague.
Oui, qui est un manteau pas serré, pas oui, ajusté.
Si je l'eus su, je lui...
Mais c'est dans le dictionnaire, cher Dieu.
Ah bon?
Mais oui, oui. Ah oui. Oh, bah, c'est pas moi qui vais connaître des...
Bah, c'est la mode, c'est l'époque de Courrèges. C'était les formes trapèzes, donc vagues.
Odile était trop jeune.
L'intervention de Lucas était très réussie, parce qu'on l'a d'abord cru spontané. J'ai pas très bien compris pour les doutes lancés sur la mort de Léopoldine Hugo.
Parce qu'en fait, il semble que ce soit pas du... C'est pas du tout le mascaret, apparemment. Ce serait un coup de vent qui a rempli le...
Elle s'est bien noyée.
Qui a fait... Oui, mais c'est pas le mascaret. C'est un coup de vent.
D'accord.
Qui a fait
on touche pas à Hugo, dit le conseil.
Nous verrons ça le jour où tu dirais pour Petit Rémailleur le mot vent.
Prochain Petit Rémailleur.
Il faut pas toucher à la légende hugolienne.
C'est parce que voilà. Est-ce qu'il y a une jolie petite citation ou deux?
Il y a des citations, elles ne m'ont pas émerveillé.
Il y a une citation de Jacques Brel qui est assez connue.
Ah oui, mais là elle n'y est pas. Robert, c'est
avec la mer du Nord pour dernier terrain
vague.
Des assauts vagues par vagues.
Ouais, c'est les vagues.
Des assauts vagues par vagues se propagent, écrit Henri Barbus.
Ah oui,
et un autre de vos auteurs favoris, Georges Duhamel, surpris par une vague de gaz délétère. Ça, c'était il y a 100 ans.
Oui. Ce serait le mot de la fin.
Mais ça pourrait être. Il y a le vague de l'air de Buffon.
Ah, bah oui.
Je sortirai là-dessus.
Achevons là-dessus. Vous Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête, jusqu'à 21h au micro, Françoise Trossard et la belle équipe des papous du samedi soir. À suivre une page de pub, les lettres de détestation de Caïn à Abel et une visite d'Adolescence Park avec Sophie Divry et Lucas Fournier. Alors, ceci est une pub, mais une pub papou ou publi, papoucité, culturelle forcément décalée, tout à fait, proposée par Eva Almassy avec des rôles, des jolis rôles pour Jeanne Carillon, Hervé Le Tellier et Patrice Comon. C'est parti Eva.
Aujourd'hui, c'est vide grenier dans le quartier. Aujourd'hui, tout va partir, tout va se vendre.
Je bazarde tous mes albums Tintin, Le Petit Prince en arménien, en chinois et en allemand. Voyez mes moutons en peluche et mes roses en plastique. J'ai aussi un renard empaillé.
Par ici, les 33 tours et les maxi 45 tours. Ne vous laissez pas emporter par la foule.
Qui veut les œuvres complètes de Buffon? J'ai 27 tomes sur les 28, mais ça sent à peine le moisi.
Je suis une poupée de cire, je suis une poupée de son.
Tu vois tes pieds dans la glace?
Oui.
Tu la trouves jolie, la glace?
Non, pas très.
Et mes casseroles, tu les aimes?
Non.
Tu les aimes, mes BD aussi?
Non, j'aime pas beaucoup les BD.
Et mes encyclopédies?
Non plus, non. Non.
Tu vois la vaisselle derrière la glace?
Oui.
Tu les trouves jolies, mes tasses?
Non, non.
Qu'est-ce que tu préfères, mes fourchettes ou mes tire-bouchons?
Je sais pas, franchement c'est pareil.
Et mes timbres, et ma collection de fèves?
Moi aussi, oui.
Tout, mes sacs, mes godasses, mes vases?
Oui, tout. Donc je vais te désencombrer de rien, totalement, tendrement, tragiquement. Je vais et je viens entre ces riens et je n'achète rien.
Tu vas et tu viens entre ces riens. Tu vas et tu viens entre ces riens. Et tu ne décides rien, ce client vague et irrésolu.
Vous auriez la monnaie sur un euro?
Avec le vide-grenier, fini l'équilibre entre l'offre et la demande chère à Adam Smith.
Fini le système keynésien de la régulation par la demande.
Au vide-grenier, on n'a affaire qu'à l'offre. Pour un grenier, c'est un comble.
Fini le capital de Marx.
Fini les monopoles de Schumpeter.
Fini la suraccumulation. Fini les greniers à blé. Vive la décroissance, le profit modeste.
La nostalgie du don à la Marcel Mauss et Durkheim.
Vide-grenier, vide-garage, vide-dressing. Foire-fouille, foire-opus. C'est kiff-kiff bourrico. Mais Mauss costaud.
Touche pas à mon potlatch.
La brocante, tout ce qui existait en vente, ce dimanche si ça vous chante, venez trouver votre bonheur, mon village, transformé en déballage, marchandage et étalage, de 8h à 18h.
Il est à qui, ce 45 tours de traînée?
La très belle voix chantée, c'était celle de Patrice Comon. Il y avait aussi Lucas Fournier qui passait dans un petit rôle. On s'aime, on se déteste. En même temps, on ne peut pas aimer tout le monde. Et parfois, on a le courage de l'écrire. Lettre d'amour, l'exercice n'est pas si facile. Et la lettre d'amour se perd au profit des SMS vite postés. Écrire qu'on déteste, oulala, il faut oser, il restera toujours une trace. C'est plus embêtant de changer d'avis. Ricardo Mosner, bon, tous les deux, on se connaît depuis vraiment longtemps.
Ah oui?
Je vous ai jamais vu en colère.
C'est vrai.
Alors, est-ce que pour la fiction de d'autres jeux, vous êtes capable d'en piquer une grosse?
Oui, oui, j'ai fait des stages de colère, oui.
Ah ouais? Et ça marche bien?
Oui, oui, ça marche pas.
C'est toute une journée de colère comme ça?
À location.
Et ça coûte cher?
Non, mais c'est pour pratiquer, pour ne pas perdre l'habitude.
D'accord. Alors, vous êtes qui, là?
Je suis Caïn. Oui. J'écris à Abel.
Bon.
Détesté frérot. Je viens de lire une milonga, variation campagnarde du tango de Jorge Luis Borges. L'argentin aveugle parle de nous. Mais dans son poème, nous sommes des gauchos, bagarreurs et tueurs, et je te tue parce que toi, tu as plus de victimes à ton compte que moi. » Puis, il conclut qu'à chaque fratricide, c'est notre histoire qui se réchoue. Bref, je n'ai marre de tes pleurnicheries et racontards. J'imagine que, comme d'habitude, t'as profité de sa cécité pour te faire passer pour un saint ou un érudit et encore distiller ton poison, espèce de pourriture, petit-fils à papa, fils d'une malheureuse et d'un pervers. Tu devrais aller te faire soigner. Tiens, je te donne une adresse, va chez Dolto. Elle aussi avait un gros bébé, Nunu, chez Pleurnichard. Je te jure que si je te revois, je te dégomme à nouveau, mais cette fois, je ferai bien gaffe de te couper la langue afin que tu arrêtes de parcourir le monde pour éviter tes calomnies. T'as oublié que tu m'énervais toujours en me suivant partout, quand j'allais en grotte avec Lilith, toujours là à m'espionner, à me coller au basque, à me menaçant, je vais tout raconter à maman et patati et patata. Je devais toujours te filer des cajots, des tomates de Crimée, des fraises de Gaza, des figues de Barbarie, des champignons hallucinogènes, et en plus supporter ton mépris quand tu l'as ramené avec tes grillades de chevreuil et tes tartares de bœuf pour piquer mes copines. T'es vraiment une tâche, Abel, toujours à cafeter, à faire du chantage, à faire ton coq, à belle les fortiches, le meilleur de la classe, à belle la belle gueule, pauvre cloche, si je te chope, je t'amoche. Puis je suis parti, puni, malheureux, dans les déserts, pour une affaire banale, un caillou dans ta gueule, que tu l'avais cherché et bien mérité, venir me faire la honte devant le paternel. Tu te croyais où? À l'assemblée? Enfin, je me suis tiré loin pour refaire ma vie, mais toi, sale vipéroïde du quatrième zone, t'es incroyable, et à chaque fois que massacre il y a, ça ne rate jamais, je suis cité. C'est ma faute, quand par là, quand par-ci, sans dire qu'à côté des atrocités auxquelles on m'associe, mon fait est juste, puisque justice fut faite. Je n'ai fait que corriger un frère irrespectueux, égoïste, moqueur, rapporteur, fanfaron, frimeur, et je m'arrête, je vais me choper un infarctus. Alors écoute-moi bien, où que tu sois, en enfer je le souhaite, tu te la fermes, tu m'oublies, et tu arrêtes de me diffamer. Ensuite, si tu envoies encore un de tes foutus SMS d'outre-tombe pour draguer ma régulière, je te cherche, je te retrouverai, tu sais maintenant, avec Google Maps, c'est fastoche. Et cette fois, comme offrande, je donnerai tes cendres et les restes de ton âme bien pourri au Tout-Puissant. Crève, recrève, à belle ordure. Quand, kind the mood of love.
Ah oui, mais c'est ça les fratries. Hein. On s'entend jamais très très bien. Et encore, ils ne sont que deux. Hein. Oui.
Bah, c'est déjà trop.
C'est pour donner la, c'est pour donner la mesure. De...
Ouais. Vous auriez gardé qui, vous, entre Cain et Abel, Jacques Vallée?
Ça, faut que je réfléchisse. Mais Cain m'énerve quand même un peu.
Ah ben oui. Ouais.
Parce qu'il l'amène quand même depuis un moment.
Bah oui, c'est vrai. Bon, on espère qu'Abel a répondu à Cain quand même. Abel, ce serait Jacques Vallée.
Oui, mais je ne réponds pas à mon frère qui est si mal élevé.
Oui.
J'écris à Dieu carrément.
Ah ben, vous lui ressemblez davantage, enfin, la barbe, tout ça, c'est un peu l'idée qu'on se fait de lui, non, Violaine?
Alors, je dis, cher Dieu,
oui.
Toi qui sais le secret des choses et dévides le fil des existences humaines, toi, créateur, qui as choisi le destin de chacun, toi qui as l'air de savoir ce qui se passe et se passera dans l'existence de chacun, oui, toi qui as l'air au courant, sinon qui le serait? Toi qui es de toute façon au courant, puisque tu es la lumière, pourquoi m'avoir flanqué de ce foutu frère? Ce Cain jaloux, ce Cain brutal, ce Cain grossier, ce Cain vulgaire, ce Cain disgracieux, bref, ce Cain qu'a. Comment as-tu pu imaginer, toi, la sagesse, toi, la bonté, la bienveillance? Comment as-tu pu introduire dans le monde une telle noirceur d'âme et tant d'aveuglement? Tu dois savoir que ce n'est jamais simple dans les familles, rarement paisible, et que souvent le frère a du mal à supporter le frère. Et tu n'as rien trouvé de mieux que de me flanquer d'un malade mental qui ne supporte pas de partager l'affection de nos parents. Ce frère me hait pour ma gentillesse, mon intelligence, ma culture, ma beauté. Ce frère déverse aujourd'hui sur moi des tombereaux d'injures. Pauvre Cain, ils ne se rendent plus compte aujourd'hui à quel point son esprit est embrouillé. Pauvre Cain, je le sais, aujourd'hui irresponsable, c'est-à-dire capable de tout. Alors Dieu Tout-Puissant, je te demande de t'intéresser un peu à nous. Si tu ne veux pas, Dieu miséricordieux, être tenu pour responsable de ceux qui risquent de se passer de ce qui me paraît inévitable. Aussi, je te préviens, il est temps que tu cesses de fumer tes vapeurs dans le ciel. Il est temps que tu te lèves un peu le popotin et que tu interviennes pour empêcher que mon pauvre frère, obsédé par les faits divers, ne devienne à son tour auteur d'un fait divers, tellement divers qu'il risque de provoquer un sacré coup de froid sur les relations fraternelles pendant des siècles et des siècles, et n'occupe, je te parle toujours de Caïn, la tête d'affiche des faits divers pendant des siècles et empoisonne les cervelles humaines pendant des siècles et des siècles. Moi, j'ai bien peur d'en être la victime. Alors Dieu, à toi de jouer, Abel.
Ouais, c'est un type bien quand même, Abel. Hein. Puis je trouve qu'il a raison d'empoigner le problème puis de s'adresser
à
Dieu. Ouais. Bah oui, parce que lui seul peut résoudre.
Bah oui, il faut qu'il se réveille un peu.
Tous
quand
les
même.
Problèmes du monde. Qu'un.
Il recommence, il recommence. Je vais commencer à glisser mon âge parce que là.
Votre âge.
Mon âge. Mon âge muette.
Oui, tu ferais mieux de le fumer.
I hate a man like you. Don't like the things you do. When I met you, I thought you was right. You married me and stayed out the first night. Do you think you treated your wifey right? Lord, I hate a man like you. I hate a man like you. Don't like the things you do. Just like a woman, you're always carrying tales, trying to make trouble, wanna get me in jail. Then you can't find no one to go my bail. Lord, I hate a man like.
Une reprise de Jelly Roll Morton. Et si vous connaissez le nom de la chanteuse que nous venons d'entendre, eh bien, soyez sympa, vous nous écrivez sur la page Facebook des Papous dans la tête ou un petit mail au Papou parce que son nom n'est pas mentionné sur la pochette du CD. Et c'est quand même bizarre. Voilà, il fallait que cela fût dit. Les Papous, c'est dans la tête et sur France Culture jusqu'à 21h le samedi soir. Dernière séquence, dernier jeu, Culture Park. Un jeu pour Sophie Divry et Lucas Fournier ce soir. Très présent aujourd'hui, Lucas Fournier. Pour Sophie, la mission, imaginer un parc d'attractions d'un genre nouveau qui n'existe pas du tout. Nous présenter son projet avec un pitch habile parce que Sophie cherche des sponsors. Et quand son parc verra le jour, Lucas Fournier se mettra dans la peau d'un visiteur. Nous n'en sommes pas là. Sophie Divry, ce serait quel parc il verrait le jour où vous avez besoin de combien d'argent pour réaliser le projet?
J'ai besoin de beaucoup d'argent, évidemment. Ce serait Adolescence Park.
Oh, ah oui, ça coûte cher les ados en général. Oui. Il y a beaucoup de choses à réparer.
C'est un projet de parc d'attractions ambitieux, mais j'ai besoin d'investisseurs ambitieux. C'est toujours un investissement à risque, hein, l'adolescence.
Oui, on ne sait pas ce qu'il en sortira.
Tout à fait, c'est comme des travaux à Radio France. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Alors j'ai nommé le parc Adolescence Park pour que le public visé comprenne bien. Parce qu'en tant que meneur du projet, je ne suis pas sûre que mon public ait toujours son intelligence en éveil. C'est un public difficile, hein, vous savez. Alors, où ça?
Bonne question.
Alors, en Île-de-France, parce que pour mon public, il faut être là où ça se passe, hein, sinon ils ne vont pas kiffer. Alors, j'ai trouvé un terrain entre Disneyland, le parc pour enfants, et le centre commercial du Val d'Europe, vous savez, le parc pour adultes. Voilà, donc entre les deux, il y a un terrain. Alors, le prix est un peu haut. Mais le terrain peut muer et devenir intéressant, peut-être.
Ah bon.
Alors au début, c'est vrai, j'ai pensé à un endroit plus beau que cette pauvre zone intermédiaire en friche. À la mer ou à la montagne, ça aurait été bien, mais les études de marché ont montré que le côté esthétique n'était pas du tout ce qui retenait mon public. Ah bon, ouais, non, ça, ils s'en fichent complètement, que ce soit joli ou pas. Là, bon. Par contre, c'est important qu'il y ait les transports en commun pour desservir le lieu, parce que comme ils n'ont pas tous le permis de conduire, ils ne sont pas tous véhiculés, et ils peuvent venir, là, du coup, en transport en commun, avec leurs copains, leurs copines, leur bande de potes,
etc. C'est plus chaleureux en groupe.
Voilà. Ouais. Donc, Adolescence Park s'adresse aux adolescents.
Et vous situez l'adolescence
entre This is the point. Hein, public, les adolescents et les adolescentes. Alors, j'ai créé une commission publique, parce que je suis dans un petit groupe, hein, je suis juste la tête du projet. Alors, la commission publique s'est réunie plusieurs fois pour définir la limite d'âge. Alors, au début, j'ai proposé, comme ça, pour lancer la conversation, entre 13 et 18 ans. Ouais. Mais des membres de la commission n'étaient pas d'accord, alors qu'ils ont refusé de se laver si les pré-ados de 10 ans n'étaient pas autorisés à rentrer dans le parc.
Ah bon ?
Oui, le débat a été dur, certains se sont levés de table. Enfin, une autre partie de la commission a, elle, menacé d'arrêter de manger si les étudiants de 20 à 25 ans ne peuvent pas rentrer. Alors moi, je suis responsable légal, hein. Je ne peux pas me permettre que des garçons de 25 ans mal épanouis fricotent avec des filles prépubères de 12 ans. Hein.
Non.
Donc il fallait quelque chose de plus simple. Alors, finalement, j'ai limité de 10 à 20 ans. Bon, ça fait un chiffre rond. Je me suis dit, même après une nuit de jeux vidéo, même devenu sourd à cause d'activités que je ne peux pas préciser à une heure de grande écoute, mon public adolescent pourra retenir de 10 à 20 ans. Voilà. Maintenant, le parc, il faut l'ouvrir.
Eh ben oui. Ouais.
Mais alors là, c'est le côté financier. C'est pour ça que j'ai besoin d'investisseurs dans tous les domaines. Alors, on a décidé d'ouvrir le parc seulement à partir de 13h. Ouais, avant, ça ne vaut pas la peine. Hein. Déjà, quand ils arrivent à 13h, les jeunes arrivent tous crevés comme s'ils venaient d'escalader le Mont Blanc. Hein. Et vu le manque d'énergie générale de mon public et sa très faible autonomie financière, le parc, il faut qu'il soit gratuit. Comme ils sont vraiment très fatigués, le concept, c'est de mettre des poufs et des matelas partout, pour que les visiteurs puissent s'avachir en permanence à tout moment.
Il y en a qui parmi nous ont des adolescents encore.
Oui.
Oui, vous avez Lucas, non, un adolescent, oui. Vous reconnaissez son profil pour être intéressé.
Ah mais tous, je les reconnais tous. Ah oui.
Donc, quant à faire, j'ai imaginé le parc en forme de grand canapé, avec plusieurs coussins.
C'est bien.
Voilà. Mais alors, avant d'entrer dans ces différents coussins, où il y a des attractions qui doivent attirer l'adolescent ou l'adolescente, on rentre d'abord par un couloir, que j'ai appelé le couloir métaphysique. Alors, c'est un long couloir noir, plein de haut-parleurs envoyant des voix disant « Qui suis-je ? Pourquoi j'existe ? Pourra-t-on jamais m'aimer ?» Alors, c'est assez désagréable, hein ? Mais alors, pour le fuir, ce couloir, il y a deux issues. Il y a l'issue de gauche, philosophie et discussion amicale, et l'issue au bout à droite, trouve ton style, qui donne sur un immense magasin de prêt-à-porter. Ah. Alors la plupart des jeunes se ruent sur ce dernier, ce qui m'arrange au niveau finance.
Hein. Eh oui.
Parce que j'ai dû en effet intégrer les entreprises privées à mon projet d'adolescence Park. Alors c'est un partenariat public-privé, vous savez, c'est ça l'idéal. Elles sont plus intéressées par le potentiel économique qu'on peut soutirer
ces jeunes. Bien sûr, voilà. Puis un partage.
Et puis en plus, elles sont plus tolérantes. Alors la structure, à partir de là, après le couloir métaphysique, on arrive donc dans différents coussins. Il y a donc le coussin philo, le coussin prêt à porter. Alors il y a le coussin 2.0, le coussin vie de famille, le coussin scolaire, bahut, le coussin suicide et il y a le coussin premier amour.
Ah, le suicide.
Ah bah oui, il y a toute l'adolescence. Hein,
oui,
sinon,
bien
c'est
sûr.
Pas,
voilà. Oui.
Alors il y a le coussin 2.0, donc celui-là était censé être virtuel. En vérité, il ne faut pas écouter ce que les adolescents disent, hein, parce que mes prédécesseurs, parce qu'il y a eu d'autres projets avant moi, ils avaient voulu faire des parcs entièrement virtuels, avec des écrans partout, un parc qui n'existe pas, là. Mais en fait, ces attractions no life, comme ça, ça ne marchait pas du tout commercialement. Parce que c'est ça la difficulté avec mon public. Ils vous disent quelque chose, mais il ne faut pas les écouter. Ils disent qu'ils veulent du virtuel, mais en fait, il faut leur faire des trucs en dur, bien réels. Et là, ils sont contents. Mais c'est difficile hein, pour un investisseur, il faut sentir ça. Voilà. Alors là, du coup, dans le coussin virtuel, c'est tout à fait réel. Les adolescents sont ficelés entièrement par des fils de Scooby-Doo. Ils ne dépassent que deux doigts d'une main, avec lesquels ils doivent taper sur des écrans et manger le maximum de pop-corn. Alors, vu l'odeur qu'il y a dans ce coussin-là, il n'y a plus que les geeks qui restent. Voilà. Les autres, en général, ils passent très vite. Vous voyez, le virtuel, il ne faut pas trop y penser. Donc, je vous amène tout de suite, Françoise, vers le coussin Premier Amour. C'est ça qui
nous intéresse. S'il vous plaît. Oui.
Voilà. Alors, il y a une attraction pour couple. Alors, ceux qui viennent seuls, on les met avec quelqu'un, n'importe qui, ça n'a pas d'importance. De toute façon, on ne choisit pas grand-chose à cet âge-là. Alors là, la grande attraction, les couples sont sur une espèce d'énorme matelas vibrant. Et sur lequel il faut qu'ils restent en équilibre. Et là-dessus, il y a d'énormes...
Ensemble.
Oui, bien sûr, en se tenant la main. En tripotant, il faut se tripoter le plus possible.
Ah bon ?
Oui, tout à fait. Ils sont très gênés. Il faut se tripoter le plus possible, le matelas vibre. Et en même temps, on balance des ballons de baudruche jaunes avec des gros liquides purulents d'acné. Voilà.
Ah bon ?
Et s'ils sont touchés par un de ces ballons de baudruche remplis d'un liquide jaune purulent, ils sont remplis de ce liquide dégueulasse. Ils doivent sortir sous les huées, évidemment. Quand un ballon explose, hein, le couple dégoulinant sort. Et ceux qui arrivent à rester au milieu du matelas sans être touchés par les boutons d'acné qui leur sautent dessus, il faut que ça aille vite, hein, il faut que ça aille très vite. Ils ont le droit de sortir et d'aller à l'étape suivante.
C'était pas le coup, c'est un premier secours, c'est bien premier amour.
Premier amour, bien sûr, mais
c'est très dangereux le premier amour, voilà. Vous savez.
Alors, le couple gagnant qui a évité l'acné,
oui.
Il peut continuer, là, il doit traverser l'acrobranche dentaire. C'est un aspect d'appareil assez horrible. Donc, ils passent tous les deux, là, ils doivent aussi y aller ensemble. Et si l'un des deux tombe de l'acrobranche dentaire, l'autre, pour le sauver, doit envoyer un maximum de textos en un minimum de temps. Mais alors là, allez savoir pourquoi, alors qu'ils ont l'habitude de ça. Si un des deux du couple tombe par terre, l'autre est tellement tétanisé par une émotion subite et complètement ridicule qu'il n'arrive pas à envoyer ses textos. C'est très intéressant à regarder. Oui. Mais c'est une attraction qui marche très fort. Ça, c'est vraiment...
Mais ça doit être rigolo quand même.
Ça, c'est vraiment
un petit peu stressant, mais oui, oui.
Alors si vous êtes fatigué après ça, votre adolescent peut aller au self. C'est dans le coussin bahut et au collège-lycée. Voilà. Alors, beaucoup de frites, évidemment. Voilà. Mmh. Alors là, le but du jeu est d'accumuler...
C'est bon pour l'acné, il paraît. Ouais.
Le but du jeu est d'accumuler le plus d'assiettes sur son plateau, tout en triant les raisins de Corinthe du couscous. Parce que c'est dégueulasse, les raisins de Corinthe, le couscous.
Ah oui.
Donc, vous avez votre plateau, vous prenez les plats, les frites, le couscous, les merguez, il y a aussi les hot dogs, il y a aussi le fondant au chocolat. Mais là-dedans, il faut trier les raisins de Corinthe. Donc, celui qui a gagné à la fin, il a le choix... Où aller manger. Les autres, ils n'ont pas le choix. Donc, il y a trois carrés où aller manger. Vous avez le premier carré, c'est le carré garçon au grand pied. Il suffit de suivre les cris de macaque et vous êtes dans le carré garçon au grand pied. Mais il y a beaucoup d'ambiance, hein, puis les desserts sont à volonté, c'est bien. Après, il y a un autre carré, c'est le carré gossip pour les filles, qui finit, alors là, ce carré dans la restauration, finit par la station Anorexie Compagnie. Ce sont des toilettes spécialement conçues pour vomir. Il y a un petit coussin sous les genoux. Voilà. Là aussi, on a heureusement des entreprises privées de nettoyage qui nous aident. Mmh. Enfin, pour les bolos, il y a le carré « Je mange tout seul » en recevant des boules de papier et depuis les macaques des garçons au grand pied. Voilà. Bon, alors là, c'est, évidemment, c'est qu'un premier aperçu du parc. Hein.
Ah non, mais c'est très alléchant. Voilà.
Hein. Non, mais ils aiment bien qu'on les malmène, les adolescents, donc on n'allait pas faire quelque chose.
C'est comme ça qu'on stimule leur esprit de révolte.
Voilà, hein? Tout à fait. Oui. Il y a aussi le coussin famille. Voilà, où là, toutes les attractions doivent être faites en traînant au maximum les pieds par terre. C'est celui qui laisse le plus de caoutchouc par terre qui a gagné. Alors, on espère qu'on trouvera des investisseurs audacieux qui commenceront à investir parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça finira.
Il y a des investisseurs, là, parmi nous. Oh, bah, donc, dit le conseil. Aucun souvenir de son adolescence. Ricardo,
hein? Moi, je vais y aller en tant que... Adolescent.
Patrice Delbourg, je ne sais pas.
Oh, après 20 ans d'enseignement dans des zones sensibles, je ne sais pas si je ferai le parc d'attraction du Bolos.
Enfin, je m'étonne qu'on ne fasse pas de selfie dans ce parc. Il n'y a pas de coussin. Quand vous avez parlé du self, je pensais que ce serait aussi un coussin selfie. Et que quand le camarade tombe, on filme. Oui, mais c'est l'embryon du projet. Après, évidemment, il y a plein d'idées qui vont se greffer là-dessus. Elle attend de l'argent. Ça, par contre, je n'en ai pas.
Like amphibians gather around. Green skin alligator, huge stickers get sound. Bombastic slime fader, so please press boost. Collect them strawberries, cause figures got roost. Still alive, hold on, hold on.
Bon, Lucas Fournier, le parc, le projet serait fou d'un parc de l'adolescence. Imaginez. Par Sophie Divry, a vu le jour, il est sorti de terre. Et vous, vous l'avez visité, vous avez quel âge?
J'y suis avec mes enfants. Enfin, mes...
Ah, on a le droit.
J'ai deux ados à la maison.
Ah, bon,
c'est
ça,
loin
quelle
quand même.
Chance.
C'est dimanche, je les ai emmenés dimanche dernier. C'est Thomas qui a 15 ans et Juliette 13 ans.
D'accord.
Parce que leur mère a dit, tu les emmènes, moi j'ai pas le courage, ça me fera des vacances. Adolescence Park, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Moi j'étais très excité, hein. Et Thomas, pas tellement.
Ah non.
Non. C'est relou d'aller avec son daron dans un parc pour puceaux. C'est ce qu'il m'a dit.
C'est pas faux, hein, non plus.
Et Juliette, elle a rien dit. Elle était sur son smartphone avec Instagram et une copine, je suppose.
Oui.
Si à un moment, elle m'a regardé, elle a fait « Je suis au bout de ma life ». Elle a 13 ans. Oh, Roméo, l'âge de Juliette. Ouais. Alors, nous sommes allés à la voiture et Thomas m'a dit « Mais papa, t'es trop ouf. On va pas monter là-dedans. » Ma voiture est une voiture normale, française, avec des pneus. Je suis choqué, reprit Thomas. Je refuse de monter là-dedans après ce qu'ils ont fait avec les carburateurs et les particules fines et le CO2. Mais si tout le monde fait comme toi, la planète est morte. Tu sais que le 6 août, cette année, on avait consommé la totalité des ressources propres de chaque année et que les espèces animales s'éloignent de l'équateur à raison de 20 cm par heure. Et ça, c'est hyper grave. Moi, j'ai dit que c'était hyper grave, ça, parce que je ne voulais pas me mettre à dos mon fils à dos. Donc, j'ai négocié notre départ en échange d'un paquet de Michoco et de la promesse d'acheter dès demain une voiture hybride solaire.
Très bien.
Alors, Juliette s'est calée au fond de la voiture avec son iPhone dans la main droite, son smartphone dans la main gauche, son casque sur les oreilles et une tablette sur les genoux. Thomas m'a ensuite expliqué, tout en mangeant les Michoco, qu'on tuait 60 milliards de veaux chaque année pour faire de la gélatine animale qui sert à la fabrication des bonbons et qu'à cause des bonbons, on a élevé des bovins qui, avec leur flatulence, détruisent la couche d'ozone, d'autant plus qu'on fabrique du maïs transgénique pour nourrir ces bovidés en dévastant des forêts et que c'était hyper grave et que j'étais vieux et que je m'en fichais. Bon,
qu'est-ce qu'il est chiant ce gosse.
Mais à mon avis, il l'a vraiment à la maison, le cas celui-là.
Et donc, la suite du trajet s'est passée très agréablement. Juliette ne disait toujours rien, ou plutôt si elle murmurait des bouts de phrases dans son téléphone. Alors Thomas m'a successivement exposé le problème de la surpêche du fait des filets dérivants, l'inanité du label commerce équitable sur les bananes d'Amérique du Sud. Oui. La question du militantisme politique et la nécessité du débat citoyen, l'incurie du système éducatif et une étude comparée du Michoco et du Bounty. Parce que je m'étais laissé aller à lui offrir aussi des Bounty. Alors je n'ai pas tout compris, mais ça au moins, l'étude gastronomique, oui, j'ai à peu près suivi. Il a ajouté que je n'avais pas de raison de m'enjailler, malgré qu'il avait bien voulu m'accompagner à Adolescent Park. Excusez-moi, c'est
sa façon de formuler.
De
oui.
M'enjailler. J'ai vérifié. M'enjailler, c'est une dérivation de to enjoy.
Ah bon?
Aimer, approuver, voilà. Et si vous écoutez La Fouine, c'est ce qu'il chante dans ses chansons.
Ah, s'enjailler,
oui. Ah, oui. Voilà. Et le malgré que, je le laisse tel qu'il m'a été donné aussi.
Bien sûr.
Donc nous sommes arrivés à Adolescent Park. Et là, au guichet, nous avons été abordés par une bande de jeunes, de toute taille, de tout sexe, de toute couleur, mais avec un point commun, l'uniforme. Des baskets et des blousons à capuche. Thomas a fait un grand sourire, il m'a embrassé sur les deux joues et il a disparu avec eux. Ah non, il a fait un demi-tour et il m'a dit « Tu peux me filer 100 euros ?» Juliette était toujours assise dans la voiture. Je suis sorti pour ne pas m'immiscer dans sa conversation. Elle déteste que sa mère l'écoute. Moi, j'ai du tact. Il pleuvait sur le parking, il y avait d'autres pères debout près de voitures garées, d'autres mères. On ne s'est pas parlé, mais on s'est compris douloureusement. Et soudain, la portière s'est ouverte. Juliette a souri. Non, je ne rêvais pas. Elle a souri.
Non.
On y va, j'ai dit. Oh, mon petit papa d'amour. Tu veux faire trop plaisir à ta fille chérie? Oh, douceur d'être ou de n'être pas papa. Mais j'ai dit, oui, bien sûr. Tu m'emmènerais à Metz ce soir? À Metz ce soir? Oui, il y a un concert de Bettina Hooper. C'est ma chanteuse préférée, je la kiffe trop. J'ai une copine qui a deux places, elle habite à Lille. On passe la prendre à Lille et on va à Metz. Allez papa, allez, sois sympa, s'il te plaît, sois sympa. Eh bien, vous savez quoi? Je suis sympa.
Bravo, formidable, bravo. Oh, il n'y a rien à ajouter, c'est un bon père. Puis il a des ados modèles, finalement. C'est des bons représentants du mot ado. Vous qui en avez eu il n'y a pas si longtemps, Odile, des filles.
Ah, mais le fils, il est formidable, il va faire une grande carrière.
Ah oui, oui, oui. Oui, mais c'est le parc qui va faire.
Mais oui, c'est difficile d'attirer ce public. Hein.
Mais c'est jamais gagné parce que. Ouais. Et oui, ça fait deux entrées qui sautent là. Ah oui, c'est terrible. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart avec Anne de Pelchin et Emmanuel Couturier. À podcaster sur franceculture.fr pendant un an pour une réécoute quand bon vous semble. Pour la convivialité, rejoignez la bande des auditeurs sur notre page Facebook. Et à samedi prochain à 20h, au revoir. Passez une très belle soirée à l'écoute de France Culture.
Quoi, quoi? Ah!